11h19. Sous les couvercles, la good food.
Landscape can take your sorrows away. There aren't very many girls out here. Shakespeare said, we are nature too. That's the overwhelming fact of life. Yeah, yeah. At first, I think I could be a writer because all I had was that rural background.
Seule la terre est éternelle, sublime film de François Bunel et Adrien Solan qui nous écoutent hein, ce matin mais n'ont pas pu être avec nous. Ils sont dans un festival du livre, une très belle leçon de vie avec l'écrivain Jim Harrison dans son refuge du Montana quelques mois avant sa disparition. C'est à voir absolument. Et en ce qui nous concerne ce matin, c'est d'un livre qu'il s'agit, Le sorcier et la luciole sur la route et à table avec Jim Harrison, publié aux éditions Nourriture Fou, écrit par vous, hein, Chris Campadieu, avec nous depuis Paris. Je rappelle, vous êtes vigneronne dans le sud-ouest. Racontez-nous d'abord un peu l'histoire de ce domaine. Où sommes-nous exactement et que produisez-vous ?
Alors, c'est un domaine qui s'appelle Domaine La Tour Vieille, qui est dans le sud-sud.
Ouais.
Parce que pour nous, sud-ouest, c'est le Gers, la
D'accord.
Gascogne.
D'accord, tant pour nous.
Non, on peut pas être plus au sud que Lure et Banyuls,
ouais.
À part la Corse, évidemment, mais c'est tout. Donc, on produit deux appellations, c'est un vignoble de montagne. C'est l'endroit où les Pyrénées se jettent dans la Méditerranée, vous voyez. Donc c'est assez spectaculaire, des vignes en terrasse, travaillées à la main, ça, il n'y a pas de mécanisation possible. Et on produit du vin doux qui s'appelle Banyuls, d'un côté, et du vin normal, du vin sec, en rouge ou blanc, au rosé, qui s'appelle Collioure, voilà.
Là, je sens Carlo avoir un petit sursaut d'émerveillement.
Moi, si on me disait un jour, tu dois choisir entre les vins secs et les vins moelleux, que ce soit des vins mutés, des vins comme le Banyuls, ou qu'ils soient des vins en pourriture noble, j'arrête le vin sec et je ne bois que ces vins-là. Donc voilà, mais ça n'engage que moi. Donc quand je vous entends, Christine, j'ai déjà envie de je me sens télétransporté sur ces vignes en terrasse, au bord. En plus, voilà,
il est parti,
au bord de la Méditerranée. Enfin,
c'est chouette.
Alors, on se demande quand même comment une vigneronne va un jour s'intéresser et écrire un livre sur ce géant de la littérature, Jim Harrison, un homme qui laisse un héritage littéraire florissant, foisonnant, d'Alva, Les Légendes d'automne, un superbe recueil dont la troisième histoire d'ailleurs a été portée à l'écran, on s'en souvient, avec Brad Pitt et Anthony Hopkins, d'Alva évidemment, de cette grande fresque historique, sa grande traversée de l'Amérique avec un bon Bonjour pour mourir et tant d'autres. Chris, comment ce chemin de vigneronne vous a-t-il mené sur celui de Jim Harrison ?
Eh bien, par le vin, bien sûr. Évidemment, le vin, vous savez, c'est une drôle de clé, c'est un ouvre-porte. Avec une bouteille de vin, on a accès à des choses un petit peu imprévues dans la vie d'un vigneron, d'une vigneronne. Et ça a été le cas pour moi, enfin pour nous au domaine, avec mon associé Vincent. Nous avons reçu un jour cette fameuse lettre d'information de notre importateur américain, qu'il faut citer ici, parce qu'il est quand même assez particulier dans le paysage des États-Unis. Il s'appelle Kermit Lynch, et il n'a dans son catalogue que des vins à fort potentiel d'âme, comme il aime à le dire, des soul wines, en fait. Et donc, Kermit faisait, et il était copain avec Jim Harrison, et il lui demandait d'écrire des critiques sur des vins qu'il lui confiait.
Oui.
Et ce jour-là, Jim a écrit, non pas directement sur notre vin, mais sur un film qu'un couple de Californiens avait fait sur nous. Ils étaient venus pendant une année complète au domaine La Tour Vieille, nous filmer saison après saison. Et ce film s'appelle Le Vin du Cœur en français, Wine from the Heart en anglais. Et on peut le trouver sur YouTube à l'heure actuelle. C'est un film de Yasha Aginski, qui est cinéaste en Californie. Puis ce film a gagné pas mal de petits prix dans des petits festivals de cinéma, d'auteurs. Et Jim a vu ce film. Et il écrit qu'il en a été bouleversé. Mmh. Et à la lecture de mon livre, on pourra trouver le texte, le premier texte, exact. Cette chronique oui. qu'il a écrite. Et que j'ai traduite parce qu'il n'en existe aucune traduction. Donc, il écrit un texte que je reçois, moi, au bureau.
Et là, vous devenez folle de joie, là, vous. Vous gambadez dans les vies.
Carrément, moi, je tombe de ma chaise. Enfin, je veux dire, j'étais lectrice de Jim Harrison, ce qui explique un petit peu le choc émotionnel que ça m'a procuré. Et donc, je n'en suis pas revenue. Je me suis dit, que faire avec ça? C'est trop lourd, c'est tellement chargé. Ouais. Je ne vais pas pouvoir dormir pendant une semaine. C'est une dose énorme.
Et quoi? C'est petit à petit que l'homme va se rapprocher physiquement de ce domaine, de Collioure en tout cas, qui sera une région qui va démarrer une aventure autant gourmande que poétique. Vraiment, pour le coup, très poétique. Il y avait, pour Jim Harrison, une volonté de partir sur les chemins d'un immense poète, Antonio Machado, qui s'est exilé, là, qui est mort. Et donc, pour lui, c'était une manière, Jim Harrison, de convier à la fois la gourmandise, les vins et la poésie.
Et voilà. Ouais. Donc, le deuxième point pour nous mettre en relation, ça a été le fait que Antonio Machado a été enterré à Collioure, où je vivais. Et dans le vieux cimetière, il est enterré avec sa maman parce qu'ils ont fui la dictature de Franco à ce moment-là, en 1939. Ils sont arrivés plus ou moins à pied, plus ou moins en train, avec des bouts de chemin improbables et très douloureux parce qu'ils étaient tous les deux en très mauvaise santé. D'ailleurs, les deux vont mourir à Collioure au bout d'un mois et ils resteront pour toujours dans le cimetière. Donc, Jim voulait vraiment venir sur la tombe de Machado. Et moi, quand j'ai reçu donc son article sur nos vins et sur nous, je lui ai répondu. Et cette première réponse a donné lieu à d'autres réponses de sa part. Et un jour, il m'a dit, je voudrais venir voir Machado, est-ce qu'on peut organiser ça?
Waouh, incroyable. Donc, un voyage initiatique, gourmand, qui va démarrer de Collioure. Et vous allez le suivre. Et cette succession de découvertes va s'étendre sur plusieurs décennies. Vous allez le suivre partout. Vous allez aller chez lui en Arizona, dans sa casita, avec son épouse Linda. Vous allez vraiment entrer dans le cœur de son intimité, on peut le dire. Pour Jim Harrison, il disait, il est impossible de connaître véritablement quelqu'un si on n'a pas préparé et partagé avec lui un bon repas. Idem pour les bons flacons. Il disait des flacons de vin, c'est une manière de chasser le bavardage au profit de l'authenticité.
Ah, ça, c'est sûr. Demandez à François Bunel, on prend des kilos quand on séjourne chez Jim et Linda. On se met au régime en rentrant.
Il n'aimait pas les discours vides. Il aimait les choses authentiques. Il aimait aller creuser et aller dans le cœur des personnes avec qui il était.
Ah, mais bien sûr, c'est comme s'il n'avait pas le temps. Comme si un certain temps nous était imparti et que l'usage que nous en faisons allait nous être demandé. Oui. Comment as-tu passé ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as regardé? Et comment tu l'as regardé? Ça, c'était un petit peu Jim. Il avait cette espèce de mépris pour les gens qu'il appelait les gens mouillés, ceux qui perdent leur vie dans des faux chemins ou simplement dans la méchanceté. Donc ça, il appelait ça les gens mouillés et qu'il pensait que ces gens-là laissaient entrer en eux tout comme des mauvaises éponges et essayaient d'entraîner les autres dans leur chute. Donc Jim était attentif.
En parlant d'éponges, quand même, il fallait suivre dans le sens. Oui, mais non, mais parce que j'ai quand même relu un peu de Jim Harrison et votre bouquin, Christine.
Ah, ça c'est sûr.
Comment? Non, mais après, sans jugement, hein. Mais est-ce que moi, j'ai toujours cette question qui me taraude, c'est est-ce qu'on peut être à la fois gourmand de l'intérieur, c'est-à-dire finalement pratiquer un art un petit peu solitaire et personnel, c'est-à-dire se repaître l'esprit mais aussi le corps, et on peut aussi ouvrir son cœur et son esprit vers l'autre. Vous voyez, quel est le chemin entre se réjouir de manière égoïste et s'ouvrir au monde pour ne pas devenir mouillé, tout ça en passant par la gastronomie? Excusez-moi, la question est est tout à fait mal formulé, mais vous avez compris, je suis sûr.
Oui, oui, bien sûr. Mais tout ça, c'est le même chemin, en fait. C'est la même chose. Ouais. Vous savez, il y a beaucoup de religions dans le monde. Certaines prônent l'unité. Il y a des philosophies, plutôt, qui prônent ça. Donc, le tout dans un unique et indissociable. Donc, avec des volets et des petites facettes changeantes, comme ça. Tout est possible. Et manger ou regarder un arbre ou discuter avec quelqu'un, préparer un repas, tout ça, en langage harrisonien, c'était la même chose.
De lui, vous écrivez, Chris Campadieu, dans cet ouvrage « Le sorcier et la luciole », il n'était pas un éléphant dans un magasin de porcelaine, il était la réincarnation de la porcelaine en éléphant, quelquefois un monstre, mais un monstre de poésie, de divagations sensibles, d'espoirs effarés. Moi, j'ai envie de vous demander, quand on est face à un personnage comme ça, on est obligé d'être sincère, parce qu'il perçoit tout, il comprend tout. Il a une acuité sur le monde, sur les gens, dingue.
Ah ben, bien sûr. Vous savez, la phrase sur l'éléphant dans le magasin de porcelaine, j'ai failli la supprimer à maintes reprises. Je ne sais pas pourquoi. Elle s'est imposée, elle a résisté, elle est restée dans le bouquin. Mais elle me plaisait moyennement. Même si elle raconte quelque chose de tout à fait authentique. Mais Jim, oui, bien sûr, on peut pas se retrouver aux côtés d'un tel géant sur lequel il faut adapter son pas sans qu'il perçoive en vous, je veux dire, quelque chose qui l'intéresse. Ça, c'est
impossible,
c'est
de
évident.
Tricher.
Mais là, on est en train de tresser les louanges de Jim Harrison. Tresser les louanges.
Pas les louanges, le personnage. On dresse le personnage.
Oui. Mais c'était quoi le talon d'Achille? Est-ce qu'il lui arrivait d'être mauvaise humeur, mauvaise foi, odieux? C'est quoi? Moi, je m'intéresse toujours à la faille, finalement, chez les gens.
Côté obscur.
Oui.
Mais elle en parle, Chris, dans son livre.
Mais justement,
Il y en avait un. Il y avait la dépression, la mélancolie, la noire mélancolie qu'il avait accompagnée dès son enfance, puisqu'il avait eu cet accident de vie particulier et prégnant d'avoir son œil gauche crevé par une petite fille quand il avait 7 ou 8 ans. Et donc, ça ne l'a pas quitté. Mais moi, j'ose dire que pour l'avoir côtoyé, justement, cette mélancolie et cette forme de dépression avait laissé chez lui une trace lumineuse, vous voyez, la lumière dans la nuit. C'était un petit peu ça.
Et c'est souvent le déclencheur du génie. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète en lisant sa biographie. On le comprend très, très bien. C'est que cette blessure-là a permis à cette écriture d'exploser véritablement. Jim Harrison aimait se sentir vivant plutôt que mort. Vous l'écrivez aussi. Son rapport à la nourriture l'illustrait d'ailleurs parfaitement. Un appétit insatiable comme le désir de savourer l'existence. Ça ressemblait à quoi, Chris Campadieu? Un repas avec Jim Harrison, on savait quand ça commençait, pas quand ça se terminait.
Ben ça dépend déjà, les repas au restaurant, les repas à la maison chez lui ou à la maison chez moi, c'était très différent, le temps n'était pas le même. Mais ça ressemblait simplement à se poser entre amis et à regarder ce qu'on faisait. Et il y avait une chose très particulière chez Jim, c'est que quand il appréciait quelque chose, il grognait.
Il grognait
comme un petit chien, comme un petit cochon, comme un animal. Et plus c'était bon pour lui, plus les grognements étaient variés. Et ça, c'était assez étrange au début pour les gens qui n'étaient pas habitués.
Alors, ce qu'on doit aussi expliquer, c'est que pour lui, dans le cœur de son couple, la cuisine était obligatoire. Pour lui, un couple qui dure, c'est un couple qui cuisine ensemble. Ça met même un petit piment en plus dans la relation. Et ça, vous l'avez observé dans des sessions culinaires mémorables en Arizona avec Linda et Jim.
Ah oui, en Arizona et puis dans le Montana aussi, parce que je les ai vus les deux. Il faut dire que dans le Montana, c'était un peu plus particulier parce que Linda avait son potager. Linda était une énorme jardinière. Elle faisait venir des légumes, des fruits, des plantes, des herbes aromatiques, tout ce qu'il fallait pour la cuisine de la maison. D'ailleurs, sa fille Jamie a pris le relais là-dessus. Ouais. Elle a un potager épouvantablement sublime. Et donc, elle fournissait la cuisine qu'elle préparait ensuite avec Jim. Ça, c'était pour le Montana. En Arizona, il n'y avait pas de potager, mais ils cuisinaient aussi tous les deux ensemble sur une petite cuisinière à gaz très modeste, vraiment très modeste.
Fabrizio Buccella, je ne sais pas si vous êtes connaisseur de Jim Harrison, en tout cas de
connaisseur,
réputation.
J'ai lu tous ces bouquins de A à Z, les romans. Voilà. Ça, c'est vraiment un de mes idoles. Quoi.
Le portrait là qu'on vous dépeint de l'homme par rapport à la nourriture, à la fois à sa gourmandise folle, à sa noirceur, ça fait écho pour vous qui connaissez donc cette œuvre.
En partie, ça fait écho des choses qu'on a dites. D'ailleurs, dans ses romans, il y a toujours une partie de lui qui se retrouve. Mais quelque part, ça reste quand même toujours, je trouve, des questions sur le sens de la vie, sur l'amour, qui revient quand même tout le temps, sur aussi une certaine forme de paradoxe existentiel. Et puis, surtout, c'est très drôle, je trouve, quelque part. Il y a un humour qui est là tout le temps. Et donc voilà, moi j'écoutais sans rien dire, mais comme un petit enfant, votre discussion, parce que franchement ça me replongeait dans les lectures. J'avais les couvertures des romans qui défilaient les uns derrière les autres, et je ne parle pas uniquement des recueils de ces petites chroniques de bouffe qui sont sympathiques, mais qui pour moi c'est pas le plus grand du Jim Harrison. Le plus grand du Jim Harrison, c'est dans les vrais livres qu'il a fait, quoi.
Pour ce qui nous concerne ici via notre prisme, on va évidemment les évoquer, ces chroniques gourmandes compilé dans cet ouvrage, un sacré gueuleton que vous avez aussi pu lire, Carlo.
C'est maman qui me l'a offert.
C'est maman qui vous a offert. Je voudrais justement qu'on parle de ces critiques culinaires dans votre ouvrage. Dans son ouvrage, justement, il y a un petit extrait d'une lettre qui a été envoyée par Sam Lawrence, qui est un grand éditeur américain, à Mike, qui est donc le rédacteur en chef, le patron de la revue gastronomique. Et Sam Lawrence lui dit... C'est le meilleur critique gastronomique de tous les États-Unis d'Amérique. À côté de lui, James Beard, qui était aussi un grand expert, ressemble à un crevard. À vrai dire, n'importe quel homme un peu robuste fait passer James Beard pour un crevard. Garde Harrison coûte que coûte, ne recule devant aucune dépense, envoie-lui des caisses de Roman et Conti, de Roderer Cristal, garde-le, couvre-le, accorde à ce glouton tout ce qu'il désire. Il était à ce point-là magistral dans cette analyse du monde et de la gourmandise, Chris Campadieu.
Oui, parce que en fait, Jim Harrison, c'était un cerveau reptilien. Très subtil, mais très reptilien. Ouais. C'est vraiment le profil même du dionysiaque, vous voyez. On entre directement dans les choses. Pas de préliminaires, pas de chichi, pas de fioritures. On est là pour bouffer, et on va bouffer, et on va surtout bien bouffer. C'était ça, Jim.
J'aime beaucoup que vous disiez ça, Chris Campadieu, parce que vous savez, nous travaillons dans un média de service public, et régulièrement, quand on dit bouffer, on se fait engueuler. On reçoit un mail de Monique ou de Roger qui nous disent « on ne peut pas dire bouffer à la radio ». Or, je pense que
Jim,
il faut...
c'est obligatoire.
Mais oui, et je vous suis, et je suis feu Jim Harrison là-dedans, c'est que pour moi, et enfin, je vous pose plutôt la question, Chris, faut-il dédramatiser un peu la chronique gastronomique, dédramatiser un peu ce monde de la bouffe, quand il finalement enlever un peu ce côté analytique de la chronique pour rester dans l'impression, dans le sentiment, et c'est comme ça, comme disait tout à l'heure Fabrizio, qu'on arrive justement à sortir de ça pour aller vers un peu plus d'universel, non ?
Mais bien sûr, et de toute façon, la langue s'est modernisée. On s'est mis à utiliser des mots que nos parents, surtout grands-parents, n'utilisaient jamais.
Oui, ma grand-mère, elle ne disait pas, non ?
Non, tout à l'heure, j'ai entendu « saloperie » passer dans le texte de Sophie, et je me suis dit « tiens, c'est vrai, c'est un mot très courant, et pourquoi « bouffe » ne le serait-il pas ? » Vous voyez ? C'est normal tout ça, on évolue.
C'était un homme du vrai, comment voulez-vous lui faire porter d'autres adjectifs que bouffe ? Il n'allait pas dire petit repas, fine dining.
Non, mais c'est la même chose, vous êtes vigneronne, Chris, et donc c'est la même chose dans le vin.
C'était rien, quoi.
C'est très difficile, je trouve, de lire des descriptifs de vin faits par des gens qui font autorité sans s'endormir.
Je
parle pas ici de mon ami Fabrizio, qui est un brillant érudit et humoriste, mais c'est vrai que souvent, quand on lit des critiques sur le vin, avec des tensions et des retours de Caudalie et ce genre de choses, on s'ennuie, alors que finalement, finalement, on boit quelque chose de très très bon et on se dit, mon Dieu que c'est bon, et finalement ça peut...
On s'ennuie parce que c'est pas franc ni sincère, c'est voilà. Juste quelque chose de travaillé, peut-être qu'il y a un service marketing qui est dédié aux contre-étiquettes, allez savoir.
Un petit extrait aussi que j'ai beaucoup aimé dans ces chroniques gastronomiques concernant le talent de la politique étrangère des États-Unis à l'époque où il rédige le billet. Chacun se demande, n'est-ce pas, pourquoi nous sommes si peu habiles parlant des États-Unis en matière de politique étrangère. Indubitablement, c'est parce que ce que nous ingérons manque d'énergie. Nous sommes toujours devant par des gens qui adoptent un régime supérieur au nôtre, savourent une nourriture plus intéressante d'un point de vue technique, bien sûr. Si Mitterrand a damé le pion à Reagan en Europe, c'est surtout à cause des plats exquis dont il se délecte. Regardons la vérité en face. Mitterrand boit d'excellents Bordeaux, Bourgogne. Il mange de l'ail, des truffes, du foie gras. Et quand il y a une petite faim à minuit, ce sont diverses variétés de tripes, de riz de veau, d'intestins, de pieds de veau en gelée qu'il mange. Voyez ce que mange Reagan. Un vrai cauchemar. C'est facile de résumer le talent politique à l'assiette.
Ouais, voilà,
mais il l'a fait,
ça,
lui.
Ah oui, il critiquait Reagan parce qu'il le critiquait le fait qu'il mangeait des flocons d'avoine.
Des flocons d'avoine,
mais
exactement.
Ça, vraiment, il était énervé contre les flocons d'avoine. Alors que je ne pense pas du tout que Mitterrand avait le régime que Jim Harrison lui prêtait. Hein.
Ça fait penser à un film pas mauvais avec Catherine Froh, je ne sais plus, Les délices.
Les délices du palais.
Oui, Les délices du palais, où finalement, c'est un peu idéalisé. Mais plutôt que Mitterrand, tant qu'on y est à évoquer Jim Harrison et les présidents, ça me fait penser à Jacques Chirac qui aimait la tête de veau et la bière. Et,
bien sûr,
franchement, c'est ça aussi, manger. Je pense, y a cette fameuse interview de Jacques Chirac, on lui dit, comment vous faites à tenir ce rythme? Eh bien, je mange. Dès que je m'arrête, je mange. Et finalement, c'est du Jim Harrison à la manière un peu plus à droite que Jim Harrison probablement, mais c'est ça, finalement, manger aussi.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, il y avait une chose que Jim abhorrait, c'était tout ce qu'on peut appeler les dinettes moléculaires.
Alors ça,
de question de lui donner ça, de lui présenter le moindre plat. Il m'avait bien briefé à ce sujet quand on est parti la première fois en voyage. Je dis, I don't want foam food.
Ah oui, d'ailleurs, il y a un petit extrait là que j'ai surligné. Imaginez faire un Andrea servant un bol d'écume de pistache à un ouvrier du bâtiment de Lyon, un rugbyman toulousain. On peut bien sûr réduire tous les aliments à leur essence liquide et ainsi les transformer en écume grâce à nos gadgets technologiques. Il suffit d'ajouter que l'écume n'est pas ce que l'on trouve de mieux dans l'océan.
Dieu merci, c'est pratiquement fini l'écume. Mais cette référence à la dinette culinaire est vraiment intéressante, Chris, parce que parfois, quand on va au restaurant, on se dit, finalement, tout était bon. Mais qu'est-ce qui m'a manqué? Eh bien, justement, c'est peut-être, là, c'est très intéressant, cette phrase de Jim Harrison, peut-être que ce qui s'est passé ce soir où j'ai mangé, où tout était bon, c'est que c'était un peu trop dinette. Et c'est vrai que ça arrive encore de temps en temps de manger de la dinette, alors que quand on mange non pas du roboratif, mais des choses qui ont vraiment du goût et qui nous satisfont le ventre et la langue et le nez, on ne parle plus trop de ce qu'on mange et on en profite, effectivement. Méfions-nous des dinettes, quel bel enseignement.
On a besoin de consistance en toutes choses. Et dans la nourriture, c'est primordial, oui.
Quelles étaient les exigences, finalement, de Jim Harrison lors des repas? Qu'est-ce qu'il insupportait? Qu'est-ce qu'il réclamait? Quel type de vin? Je sais que les vins blancs, c'était pas trop son truc. D'ailleurs, il en parle beaucoup dans ses critiques culinaires. C'était un exigeant, c'était quoi?
C'était pas trop son truc, les vins blancs. Et puis, pour des raisons de santé, pour des raisons de urée, il n'avait pas droit au vin blanc. Il avait une liste par son docteur, qui était une doctoresse, qui lui avait interdit certaines choses, autorisé d'autres. Et en fait, justement, pour faire le pont tout à l'heure avec la vodka, elle avait oublié la vodka dans la liste. Et c'est pour ça qu'il pérorait sans cesse en disant « j'ai le droit, c'est pas dans la liste ».
Bon, il y avait le diabète de type 2, hein, je pense, à Jim Harrison. Donc c'est aussi pour donner un peu l'envers du décor. Hein, c'était pas toujours jojo non plus, la vie.
On peut attraper la goutte quand même à force d'exagérer.
Oui, bon. Il l'avait aussi,
c'est ça. Et justement, moi, si j'ai pu avoir l'occasion magnifique d'accompagner Jim sur la route, c'est parce que déjà, il avait besoin d'aide et il n'était plus...
Oui, c'est ça.
aussi en forme, il avait besoin d'être accompagné en voyage.
Jim Harrison était évidemment un homme des grands espaces, hein. Il en parle très, très souvent dans sa littérature, il aimait pêcher, il aimait les produits de la chasse. Ça, c'est son amour de la littérature, mais quel a été le lien finalement avec son amour pour la tablée? Comment son amour pour la nourriture s'est-il peut-être répercuté sur son œuvre littéraire?
C'est partout. Partout, tous ces héros ou anti-héros, selon comment on veut les appeler, mangent, boivent à outrance, comme il aimait bien ce terme, à outrance. Et donc ça se répercute un petit peu partout. Sa sensibilité faisait que ça passait par la nature, par la culture, par la cuisine et par la consommation de cette cuisine.
Quel a été le moment le plus fou que vous ayez pu vivre à table avec Jim Harrison et qui a révélé l'homme?
Pour moi, c'est mon premier voyage en Arizona, ma première arrivée là-bas. Il était allé chasser pour moi des tourterelles sauvages. Alors, pardon aux défenseurs des petits oiseaux, j'ai conscience qu'il y en a. Mais moi, je viens d'une famille de chasseurs aussi, et de chasseurs d'oiseaux notamment. Donc, pour moi, ça a été un tel hommage à moi, à ma famille, à ma culture familiale, mon père, mon grand-père. Jim savait tout ça et il est allé spécialement chasser ses tourterelles pour le jour de mon arrivée. Donc c'est vraiment ça, ça a été le grand choc affectueux de leur réception, Linda et Jim, ce jour-là en Arizona.
Et on en ressort comment de toutes ces années de déambulation avec Jim Harrison? Ça vous change profondément? Ça vous fait voir le monde, analyser les choses différemment?
Oui, bien sûr. Oh là là, oui. Déjà, la lecture de ces bouquins vous change beaucoup. Moi, j'avais lu La femme aux lucioles. Ouais. C'est un peu l'histoire de... Une des histoires d'une partie de ma vie. Et Jim a vu ça aussi en moi. Il était très friand de cette qualité qu'il prêtait principalement aux femmes, de savoir ouvrir la porte et partir dans la nuit. Donc ça m'avait changé. Dalva, la lame de fond de Dalva a toujours ses répercussions aujourd'hui dans ma vie. Rencontrer Jim, ça n'a pas été anodin, non. Non, on ne se remet pas d'une telle rencontre, c'est bouleversant. Ça vous remet au plus profond, ça remet tout en perspective. Le sentiment de légitimité, de non-légitimité, qu'est-ce que je fais là, comment ça m'arrive à moi, j'ai passé des années, vous savez, sans en parler, parce que j'étais entourée de gens qui lisaient peu Jim Harrison, qui le connaissaient mal, et qui s'évertuaient toujours à me dire, quoi, Jim Morrison, le chanteur, mais il est mort,
pas tout à fait la même chose, oui, c'est ça.
Mais c'est vrai que quelques temps, je n'en parlais plus, et puis voilà.
Et puis il a fallu sortir tout ça, et ça transforme des expériences comme ça. Et en tant que lecteur, et même si vous n'êtes pas lecteur de Jim Harrison, parce que j'ai fait un petit sondage ce matin en arrivant à la RTP, pas mal de gens ne le connaissent pas, ne connaissent même pas le nom, et donc c'est bien d'entrer dans ces univers littéraires, et de faire des ponts, de créer des liens entre ce qui nous anime. Carlo, ici, c'est l'acte de...
Tout votre talent, ma chère Sophie.
Voilà. Chris, on va vous laisser profiter d'une très jolie journée à Paris. Pas mal de séances de dédicaces pour mettre ainsi à l'honneur Jim Harrison. Et je rappelle le titre de cet ouvrage, Le sorcier et la luciole sur la route et à table avec Jim Harrison. C'est publié aux éditions Nourriture Fou. Belle journée à vous, Chris, et merci pour ce joli moment.
Merci à vous.
Allez, la vodka, il en était fan, friand. Il avait même son petit rituel, on en parle dans un instant avec vous.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.